Anna de Noailles, lettre de lui à elle. Madame, voici 15 jours que je vous ai quittée et que je voyage. Je ne sais pas encore si je puis ou si je ne puis pas vivre sans vous. J'ai traversé en automobile à une vitesse violente des paysages si précipités que les uns sont brûlants et les autres glacés. Ils sont moins rapides que votre visage. Quelquefois, j'ai pris le train, mais ces wagons sourds ont un rythme singulier et profond. Ce sont des divans où l'on meurt de tendresse et qui m'ont semblé trop doux pour qu'on puisse les supporter sans épier chez vous un regard qui soupire. Je suis resté 3 jours dans la petite ville de Voyon, où l'air souple et tiède coule entre la rue Rose-Sage et la rue Vernier. Le soir, le rideau de toile qui ferme le petit café se balance dans le vent et l'on voit des gens qui boivent et qui fument calmement et qui vivent ainsi sans désir. J'ai parcouru des rochers, des vallons. J'ai vu Annecy, rêveuse sur son lac rose, et comme une bruge plus claire, tout entourée d'eau douce. Chambéry, un peu noirci de fumée, qui porte sur un de ses collines orné de vignes et de pervenches. La maison où Jean-Jacques et ses plus vifs transports. Aix, dont les jardins humides sont au moment de l'ombre qui les gagne, recouverts d'un globe de vapeur. Et me voici sous un frais soleil à Grenoble. C'est une ville d'azur et de neige. Elle est luisante, polie et à facettes comme un glacier. Elle reflète la lumière du monde. Elle est si vive que le temps, les voitures, les gens, le commerce circulent comme de l'eau entre les deux trottoirs de ces rues étroites. Elle se leva la première à la veille de la Révolution française, ses poumons remplis de l'air des montagnes criaient « Ho pour la liberté !» Mais je ne sais rien de tout cela. Je vous ai quitté parce que vous étiez trop gaie, madame. Vous ne riez pas pour rire, ni parce que votre sort est léger et le plus enviable qu'on puisse imaginer, mais parce que, inconsciemment, et si digne, si hautaine, vous suiviez pourtant votre inclination qui est de provoquer la volonté des hommes. Vous sentez que votre étrange rire ouvre dans votre âme et dans votre corps un abîme qui donne à ceux qui vous contemplent un singulier vertige. Je vous connaissais, je savais ce que vous aimiez. Vous aimiez qu'on vous étonnât et qu'on vous fît peur. Dans cet instant-là, votre visage d'adolescent tendre, que je regardais de loin et secrètement, mourait de langueur. Je l'ai vu si renversé, si flottant, si décaché, semblait-il, de votre corps, si exsangue de volupté qui faisait penser à ces décollations des jeunes morts dont les yeux se sont enfermés sur une haletante extase, et l'image d'un jardin de Judée et de Salomé qui danse. Mais ah, comme votre orgueil domine votre sensualité, les nuits les plus claires cachent suffisamment les signes soulevés de désir et les amoureuses colombes. Mais vous, si vous cédiez au vif instinct de la nature, que les ténèbres vous cachent assez au regard de votre amitié, vanité, voilà ce que vous pensez. Pourtant, je sais des moments où, avec quelque violence, aisément, on vous a dû trouver sans défense. Car si votre regard est redoutable, vos mains et vos genoux sont faibles. Mais qui, vous aimant, voudrait d'un tel combat et d'une victoire si pleine de colère que l'on ne saurait plus si vos soupirs sont de la tendresse ou de l'étranglement. Hier, j'ai passé l'heure du crépuscule et du soir sur la plus solitaire colline. Partout du silence, quel silence! Un silence qui habite, qui rôde, qui règne, qui dit « C'est moi, je suis le silence !» Par instant, un corbeau jetait sur cette campagne déserte son cri noir, son cri de menace et de rancune, et un petit grillon se mettait à craquer comme une brindille de bois. L'air, le ciel, était d'une couleur qu'on ne peut pas dire, une couleur faite de silence et d'éternité. La moitié de la lune luisait comme une faible feuille d'eau. Je mourais de mes passions de tristesse. Je regardais cette lune patiente, humiliée et divinement douce, qui à chaque seconde recevait sur elle les nuages. Et au bord d'un ravin, le feuillage, alangui par les effluves du soir, se courbait. Et c'était l'instant où, sans doute dans tous les arbres du monde, la femelle de l'oiseau porte le poids de l'amour. Madame, vous seule êtes orgueilleuse. Vous êtes pour moi le résumé de l'univers et néanmoins si peu de choses sur la terre. Vous aussi entrerez dans les ténèbres où sont descendues les époques fameuses. Vous serez une petite morte entre les morts. Rien n'agitera plus vos pieds croisés. Nulle chose dans l'espace qui se souvienne de vous. Vous serez aux yeux de la nature plus délaissé que cette fougère de septembre que je vois déjà jaunie, mais à qui le vent prend encore un peu de pollen. Si vous mourrez ayant épargné en vous votre source d'aimer, il se peut qu'éternellement et dans ce sommeil même, vous en gardiez le regret. Mais si vous jetez hors de vous votre suave ardeur, vous vous endormirez tranquillement, aussi bien votre vie aura porté sa moisson étincelante. Laissez que je vous parle encore. Si hautaine que vous soyez, vous êtes pourtant comme toutes les femmes. Les caresses que j'ai données à votre main lorsqu'elle pendait mollement le long de votre fauteuil et que vous avez si doucement toléré sont un signe que ne vous refuserez point à d'autres et pas à d'autres caresses. Vous êtes une route lente, mais où l'on avance en soupirant. Un jour, on vous tiendra tout entière et sans force dans ses bras. Madame, j'oublie votre dureté, votre allégresse. Je vous pardonne votre rire. Je reviendrai. Et une fois encore, j'implorerai votre cœur. Vous êtes jeune et, bien qu'ignorante d'une telle puissance, si pétrie de poésie éternelle, qu'auprès de vous, je m'étourdis dans la délicatesse odeur de votre épaule voilée, que de cette pâleur du visage et de ses yeux, qui durent avoir aussi toutes les héroïnes à l'éveil craintif de volupté. Mais le temps passe pour moi qui suis moins jeune que vous, pour vous aussi, madame. Pourtant, un jour vous aimerez, et demain, si vous cédez à mes prières, ou alors plus tard, quand déclinera votre émouvante beauté, et que ce sera vous qui assemblerez sur le faible front d'un frivole ami de sublime nuée. Vous aimerez, madame. Vos mains, en même temps qu'elles couvriront de caresses votre amant, s'occuperont de voiler votre grâce moins pure. Vous aimerez, dans une rage misérable et profonde, toutes les larmes, vous les pleurerez. Les nobles habitudes, l'orgueil, les lois du monde ne vous seront plus rien. La tête enfouie dans les coussins, loin du jour, loin de la lumière des lampes, roulée comme une feuille tombée que harcèle le vent d'automne, vous mordrez de désespoir et d'amour la main qui vous tiendra penchée. Et malgré votre délire, vous n'aurez jamais plus de joie, parce que vous saurez que cet homme qu'il faut inquiéter et séduire est peut-être, hélas, sûr de vous. Madame, dans ces instants-là, souvenez-vous de ceux qui, aujourd'hui, avec une ferveur sacrée, vous désirent. De ceux qui, avant de vous obtenir, pleureraient de crainte et de faiblesse sur la place nue de votre cœur. La jeune femme posa près d'elle cette lettre qu'elle venait de recevoir et qui la touchait tant. Elle songea. Celui qui lui écrivait était trop sérieux, trop exigeant, probablement trop différent d'elle. Elle ne pensait pas pouvoir l'aimer. Certes, il avait beaucoup aidé à sa naïve connaissance du désir. 6 mois plus tôt, elle n'eût pas laissé reposer au bord de son fauteuil une main si négligente qu'on pût la caresser. Maintenant, les hommes qui lui parlait avec trop de tendre véhémence, lui donnait seulement un grand frisson de l'âme qu'elle dissimulait en riant. Pourtant, une singulière pudeur et quelque chose qui est comme de la paix physique et d'ignorance l'empêchait de se troubler davantage. Mais cette lettre l'émouvait. De la place où elle était assise dans sa chambre, elle voyait par la fenêtre Paris, pâle et frais en septembre, et aussi elle se voyait de loin dans la glace, visage doux et dur, avec les cheveux foncés et bouclés, et la ligne du cou un peu gonflée. Ah, le plaisir divin dont sanglote de joie tout l'univers, qu'elle ressentait encore qu'en pensée vivement, et dont elle n'avait pas un si puissant souhait, le goûter du moins pendant la victorieuse jeunesse, le goûter quand on est encore comme une reine légère dont l'évanouissement intimide et fait peur, le connaître, mais c'est peut-être une chose si aimable et si gaie d'entrer furtivement à l'ombre d'un chapeau de rose chez l'ami de son cœur, et que ce chapeau tombe le long des cheveux amollis, et que s'organise enfin un désordre que ne peut plus voiler que les merveilles ferventes caresses. La jeune femme pense à la manière adroite et moqueuse dont elle a le soir d'hiver laissé partir de chez elle le jeune homme qui lui aussi, comme l'autre, l'aime tant. Avec quelle douleur il la suppliait d'être grave. Et comme elle refusait en riant trop. Et voici qu'elle se sent obscurément, avec une grande discrétion, mais avec une croissante netteté, qu'elle n'est plus tout à fait, et sur tous les points de son être, et de son âme insensible, elle réfléchit. Beaucoup de pensées passent dans ses yeux. Elle regarde au loin, dans la vie, dans la destinée, une candeur profonde et triste ennoblit sa personne. Le visage couvert de rêves, de résignation, elle s'assoit à sa table. Au sombre adolescent, plein de soupirs et de feu, qui pleurait hier soir chez elle, la jeune femme écrit ce bref billet dont le naïf élan nous déplairait si nous pouvions supposer qu'une âme si altérée, enfin, l'amie, pût jamais se résoudre à faire parvenir son audacieux et perfide message.